Radio Classique, les spécialistes.
Il est 7h40 sur l'antenne de Radio Classique. Merci de votre fidélité. Bonjour à vous, Laurence Nardon. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes responsable du programme Amérique du Nord, donc de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous avez un podcast hebdomadaire, donc consacré à Donald Trump et à ses élections, qui sont des élections peut-être sans précédent, en tout cas à travers le débat d'hier, avec une violence absolument phénoménale. Par exemple, je ne vais prendre qu'un seul exemple, parce que vous avez entendu déjà beaucoup d'extraits dans les journaux, et vous en entendrez évidemment à 8h et tout au long de la matinale. À un moment, Trump interrompt Biden, et Biden lui répond ceci.
Vous avez le dernier mot.
C'est dur de placer un mot avec ce clown, pardon.
Je peux juste dire...
Non.
Voilà, c'est quand même qu'un président challenger accuse un président en place d'être une sorte de clown. Et ce qu'on veut dire, Laurent, c'est que ça a été comme ça pendant toute la durée du débat, arbitré donc par un excellent journaliste de Fox News qui s'appelle Wallace.
Oui, c'était vraiment épuisant à regarder. Trump s'est montré comme on le connaît, mais enfin, il a été vraiment à fond, coupant la parole, étant très agressif, ne respectant pas les règles. On est vraiment dans un moment de la politique américaine où la décence a complètement disparu. Mm-hmm. La grande interrogation du débat d'hier, enfin avant, c'était de savoir comment Biden allait pouvoir réagir avec le risque très grand pour lui, pour ses partisans, qu'il fasse une sortie de route, c'est-à-dire qu'il perde ses moyens, que soit il s'énerve, soit il se mette à bégayer de manière incontrôlable, parce que il est affecté de bégaiement depuis toujours. Or, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps pour développer ses vraies idées et son programme, parce que l'autre l'interrompait tout le temps, il a été relativement correct. Enfin, il a tenu le coup, si vous voulez. Il s'est pas trop énervé. Le moment où il a traité Biden de clown était le moment où il s'est le plus énervé. Donc, ça restait dans les limites de ce qui allait. Et du coup, voilà comment s'est passé le débat.
Mais alors, question première, parce que nous en avons plusieurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a, en dehors de ce combat d'hommes, car c'est de ça dont il s'agit, abordé le fond de la situation américaine, à savoir la situation économique, la situation raciale et de sécurité, et la situation du Covid?
Mais on est alors. Effectivement, le débat était divisé en 6 quarts d'heure avec chacun un thème, donc les violences raciales, le Covid, l'économie, etc. Donc on les a abordés, mais j'ai trouvé qu'on restait vraiment à la surface des choses, puisque aucune phrase, aucun développement intellectuel, aucun raisonnement ne pouvait être développé de manière intelligente et intelligible pour les spectateurs. Donc c'était pas...
Trump a dit de Biden qu'il était l'otage de la gauche radicale. Biden lui a répondu, regardez dans vos familles, s'il y a une personne qui manque à la table familiale, c'est probablement parce qu'elle était victime du Covid, qui a été totalement sous-estimée par Donald Trump. Donc ça a toujours été à ce niveau-là.
C'est-à-dire absolument.
On a l'impression de voir un film de Tarantino. C'est de la violence à tous les étages.
Oui, tout à fait. Et le pire... Et du coup, enfin... De toute manière, c'était donc vraiment une image de la politique américaine telle qu'elle se déroule aujourd'hui, malheureusement. Deux remarques, c'est que d'abord il y a deux autres débats, donc on va voir comment ça se passe, parce que ça peut être très différent, on espère. Et par ailleurs, de toute manière, ce débat ne fera pas changer les lignes, en fait, puisque aujourd'hui dans l'opinion publique américaine, c'est tellement polarisé qu'il n'y a plus que 5% des électeurs américains aujourd'hui qui disent qu'ils n'ont pas encore décidé pour qui ils allaient voter. 5%. Donc, de toute manière, il aurait pu, à la limite, se passer n'importe quoi pendant ce débat. Les résultats électoraux n'en seraient pas forcément affectés.
Alors, question,
le 3 novembre.
Laurence, il y a une chose qui vous a frappé aussi, c'est quand même, depuis l'affaire des impôts, le silence, disons, des grands hiérarques du Parti républicain.
Oui. Depuis lundi, le New York Times commence à sortir une série d'articles qui, à une autre époque, seraient retentissants sur le fait que Trump a fait une optimisation fiscale vraiment très très agressive sur la manière dont il...
Il s'en est expliqué, d'ailleurs. Il a dit « je suis un homme d'affaires, j'applique la loi ».
Oui, ça le rend intelligent, etc. Oui, mais enfin, il y a quand même des pratiques de népotisme qui sortent des clous très clairement dans son business. Et ce qu'on observe depuis lundi, c'est que les démocrates disent que c'est terrible, etc. Certains républicains, vous avez raison, disent que c'est une preuve de son intelligence. Mais quand on regarde les élus du Congrès, l'establishment du Parti républicain, enfin l'élite du Parti républicain, aucune réaction. C'est-à-dire que ni pour excuser le président, ni pour le blâmer avec précaution, comme il pourrait faire, en disant que c'est pas très bien.
Une sorte de silence, quoi.
Silence radio. Et je me demande si on peut pas commencer à voir là le fait que tous ces élus pressentent, anticipent éventuellement une défaite du président Trump dans les élections et commencent à quitter le navire, commencent à se désengager.
J'ai deux questions qui me paraissent non pas importantes, parce que ce serait prétentieux, mais qui sont évidemment à préciser pour tous ceux qui nous écoutent et que l'avenir de l'Amérique intéresse. D'abord, est-ce qu'on sait, est-ce qu'il est crédible ce matin de donner les pointages concernant les grands électeurs? Par exemple, on dit que Biden en aurait 278 et Trump moins de 200. Il en faut 270 pour gagner. Est-ce que tout ça, c'est à prendre avec sérieux ou est-ce que ça peut bouger?
Alors, comme je vous ai dit, les électeurs semblent déjà fermement décidés, fermement polarisés d'un côté et de l'autre. Donc, ça devrait ne plus bouger.
Donc, il y a un avantage considérable à Biden si on en croit, c'est...
Si on regarde les sondages aujourd'hui, il y a une chose qui est absolument sûre aujourd'hui, et je vous le dis, et je pense que tout le monde sera d'accord, on est vraiment certain que Biden va gagner le vote populaire avec une très large avance. Mm-hmm. Le vote populaire, c'est-à-dire le nombre des bulletins démocrates dans tout le pays.
C'est ça. C'est en fait le résultat du 3 novembre au matin.
Exactement. Ou quelques jours après, parce qu'avec les votes par correspondance, ça risque de prendre plus de temps, ce qui est une grosse complication cette année. Mais il a autour de 7-9 points d'avance dans les sondages depuis des mois, peut-être même depuis 4 ans, les démocrates versus Trump. Et donc, si on compte le nombre de vrais de bulletins des pro-Biden dans les urnes, il aura de l'avance. Maintenant, toute la question, c'est de savoir, comme en 2016, comment ces bulletins vont être répartis dans les États, parce que vous savez, il y a cette histoire d'États flottants qui peuvent basculer à une très très petite majorité d'un côté ou de l'autre. Or, tous les grands électeurs de l'État, scrutin majoritaire, vont du côté du gagnant. Et c'est pour ça qu'on a des distorsions dans certaines élections aux États-Unis. Celui qui a eu le plus de voix a moins de grands électeurs et perd l'élection.
Tout à l'heure, je disais résultat le 3, non le 4, évidemment. Le vote par correspondance, c'est un des grands arguments, et ce sera ma dernière question, de Trump. Trump qui a dit qu'aucune administration américaine n'avait fait un travail aussi extraordinaire que son administration, mais Trump qui dit aussi que on est dans une situation quasiment de fraude organisée avec ces bulletins, justement, qui sont des bulletins par correspondance. Alors, quel est l'argument qu'on lit dans la presse américaine, vous qui suivez ça tous les jours, justement, à la tête de l'IFRI?
Eh bien, cette histoire de vote par correspondance pose problème des deux côtés. Parce que Trump dit qu'il y aura une fraude massive, il va y avoir des dizaines de milliers de bulletins imprimés à l'étranger l'élection ne sera pas légitime. En fait, c'est délirant, parce qu'en fait, quand vous votez par correspondance, il y a quand même un système de signature et de code-barre. On peut pas bourrer les urnes avec le vote par correspondance. Donc, il délire un petit peu. En revanche, ce qui est vrai, et ça, c'est une critique que font plutôt les démocrates, c'est que ce vote par correspondance risque de prendre plus de temps à être dépouillé. Et on n'aura pas forcément les résultats le 3 novembre. Qu'est-ce qui se passe si Trump déclare qu'il a gagné le 3 novembre au soir et qu'en fait, les résultats mettent une semaine à être confirmés, donnant éventuellement Biden élu? Que ferait Trump dans ce cas-là? Là, les médias démocrates, les observateurs démocrates pointent un risque pour la démocratie.
Voilà, donc l'analyse de Laurence Nardon ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable du secteur Amérique du Nord à l'excellent institut, donc, et très compétent, qui est l'Institut français des relations internationales, et que vous avez un podcast qui est entièrement consacré, justement, à la situation qui sort toutes les semaines, qu'on trouve à l'IFRI, qu'on trouve sur tous les sites de Postcat. Merci, Laurence, d'être venue ce matin sur notre antenne. Il est 7h49. L'avantage de Renaud Blanc, c'est qu'il a toujours une...